Moi, je prends le du Guzman au Cachin oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Bourbaki au Katanga. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. Le 25 novembre dernier, le service des Metsensat a fait une mise au point sur l'abondance des pluies en RDC d'ici à la fin du mois de décembre. À Kinshasa, 31 personnes sont mortes ces trois dernières semaines suite aux inondations provoquées par ces pluies diluviennes et écroulements des maisons. Dans une déclaration à la presse, les autorités invitent les habitants des zones inondées à les quitter sans délai en prévision d'une succession des nouvelles pluies. Cette affaire relance les débats sur la responsabilité de la population et du gouvernement dans la gestion des questions de l'environnement. Certains observateurs estiment que seule une politique efficace de l'environnement serait la solution à cette situation. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en vente par Héritier Sidiatel, Gire Lungembo et à la réalisation et la coordination. Julie César Bongonda au standard et Pierrot Lamé, je vous les présente sous la supervision de Martin Sebouzang et fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Les abondantes pluies qui ont touché la province ville de Kinshasa, l'ancienne province orientale, le Congo central, ainsi que la province de l'Équateur de Mambré, toutes les situations relancent le débat sur la responsabilité de la population et du gouvernement dans la gestion des questions de l'environnement, des inondations, des maisons écroulées. Comment cette question peut être prise dans le débat entre toutes les parties concernées? Comment faire face à toutes ces questions qui touchent à la gestion de l'environnement? Certains observateurs estiment que seule une bonne politique de l'environnement serait la solution la plus efficace pour faire face à cette situation. Quel est votre point de vue par rapport à cette proposition? C'est la question au centre de notre échange. Olivier, vous nous avez rejoint dans ce débat. Vous êtes à Kikuit dans la province de Kwilu, Sylvain à Bounia dans la province de Ituri. Beaucoup de messages ont été déposés sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs où les internautes ont continué à échanger et continuent même en ce moment à débattre de cette question. Grâce Mouyaya qui est à Kananga, il dit ceci: c'est vraiment déplorable qu'actuellement les Congolais meurent par tous les moyens possibles, car à l'est du pays, ils meurent par les armes et les machettes. À l'Équateur, c'était Ebola. Aujourd'hui, à Kinshasa, la capitale, ce sont les érosions ainsi que les inondations qui nous menacent. À mon entendement, demander à la population de quitter les lieux où les érosions s'écrivent, c'est vraiment faire preuve de l'irresponsabilité totale. Alors, je viens demander au gouvernement d'agir en bonne terre des familles en mettant en place une politique environnementale favorable à la population congolaise en général. Maurice Mouyananou, l'Indakweno, qui nous a écrit sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, dit ceci: c'est une situation macabre qui vient corroborer la thèse selon laquelle la République démocratique du Congo n'a pas de gouvernement national, mais plutôt un gouvernement qui gère la capitale et particulièrement la commune de la Gombe. Par ailleurs, la gestion bancale de cette situation par les gouvernements prouve à suffisance que les Congolais ne peuvent en aucun cas espérer sur les gouvernements pour faire face aux catastrophes naturelles. À cet effet, ils doivent se considérer comme des orphelins, c'est-à-dire face aux contingences naturelles, ils doivent apprendre à se prendre en charge car ils n'ont pas d'autres alternatives. Tony Gandhi Kinshasa dit ceci: notre gouvernement a les yeux et l'esprit tournés vers les dialogues. La question de la gestion de l'environnement sera traitée au dialogue, comme tout le monde pense bien sûr au dialogue. Jérôme Kissala dit que notre gouvernement doit faire un effort de prendre les mesures adéquates pour prévenir la question d'une bonne politique et d'urbanisation doit être respectée pour éradiquer ces genres de catastrophes dans l'avenir. Et j'invite la population de prendre en charge ce qu'ils doivent faire, planter la pelouse, des arbres, et c'est de cette façon qu'ils peuvent être impliqués dans la gestion de ces questions de l'environnement. Olivier, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Oui, merci Pierrot et bonjour à tous les auditeurs.
Mais la question de la gestion de l'environnement dans les conditions où on se retrouve aujourd'hui avec les conséquences des inondations. Alors, il y a d'une part le gouvernement avec par des responsabilités, d'autre part le pouvoir public, comme le disait tout à l'heure Jérôme Kissala avec Kikut, qu'à un certain moment la population devrait aussi avoir des initiatives pour voir comment gérer son environnement et faire face à ces genres de situations. Quel est votre point de vue?
Oui, merci. Il a tout à fait raison. Avant de parler de responsabilité, j'aimerais préciser une chose. C'est que partout au monde, dans les pays qui se respectent, les dirigeants politiques sont reconnus par le souci qu'ils ont pour la population. Et ce souci, on ne peut pas le découvrir rien que par discours. On doit avoir des programmes et des actes qui protègent la population. Ça, c'est une chose. Alors, les catastrophes, on les gère en amont et puis au moment où ils se produisent. En amont, il y a des gouvernements qui doivent prévoir un fonds qu'on appelle fonds sinistre, fonds pour les sinistres, et ça c'est quelque chose qui est en constitue de provisions qui nous permettent de secourir rapidement les populations dans des cas comme ce qui est présenté. Alors, et lorsque le cas tout se brise, on met en place les comités de crise, et les comités de crise ont pour objectif principal de lancer des actions de solidarité. Donc, en principe, aujourd'hui, on devait voir des actions de solidarité. Ça, c'est pour la vision pratique. Mais les responsabilités sont partagées, ça c'est vrai. Nous avons la population, mais je crois que, comme partout au monde, la responsabilité de la population n'est pas la plus grande. Elle est en dessous de 50%. Parce que la politique est là pour gérer tout. Et lorsque la population ne sait pas ce qu'elle doit faire, la politique est là pour la remettre en ordre. Ça signifie que, pour moi personnellement, la politique, enfin, on n'a pas défini une bonne politique pour ce genre de problème. Et ça vient d'où, Kiro? Nous avons l'urbanisation dans la ville de Kinshasa. Vous allez constater qu'il y a des maisons qui sont dans les lignes de lisière. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, même à Kipiste, c'est un problème. Il y a des personnes qui, à chaque pluie, doivent aller dormir chez les voisins. Parce que la maison est dans les lignes de la lisière. Et ça, ce n'est pas la population, même si on peut condamner le propriétaire de la maison, mais plus que les personnes que nous sommes, nous devons être fouettés par l'État. Or, chez nous, nous constatons que l'État, pratiquement, ne fait rien et l'État vient pour constater que quelqu'un est mort. Et puis, on demande aux voisins, on fait quoi? Enterrons rapidement. Pierrot, je crois que on doit vraiment faire marche arrière. Et puis, il y a un autre problème, Pierrot, grave, c'est que la science ne nous aide pas. La science est déjà prévue. On sait que les catastrophes sont naturelles, mais la science nous a déjà donné la possibilité de limiter les dégâts des catastrophes. Mmh. Chez nous, il y a une séparation nette entre la politique et la science. C'est comme ça qu'on a l'impression que nous avons l'école pour rien. Parce que tout à l'heure, il y avait un spécialiste de l'environnement, mais il dit des choses, mais qui reste dans la théorie, parce que la politique ou ceux qui gèrent la politique ne tiennent pas compte de ceux qui font la science. Mmh. Il y a eu la COP21 à Paris. C'est la science qui a démontré que nous sommes en péril. Et à partir de la science, tous les hommes politiques ont dit « Ah, faisons attention !» Mais à elle de ce qui se passe. Les scientifiques sont à l'université, et ils font ce qu'ils veulent, et la politique fait ce qu'ils veulent. Donc voilà, Pierrot, un peu, mais il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a le choléra dans la tupo. Ce sont les conséquences qu'il faut attendre. Et ça, ce n'est pas la population qui doit lutter contre la choléra, excusez-moi. C'est la politique de l'État. Donc, je dirais que, en fait, l'État est irresponsable. Voilà, Pierrot, ce que je te dis dans un premier temps pour ce sujet-là.
Merci beaucoup, Olivier. Ce que vous avez dit, c'est important. Il faudrait qu'il y ait une politique cohérente et mieux orientée en matière de la protection de l'environnement, de la gestion de toutes ces questions. D'ailleurs, la loi portant un principe général de l'environnement, on le dit bien, qui est à l'article 3, la section 2 des obligations, l'environnement congolais fait partie du patrimoine commun de la nation sur lequel l'État exerce sa souveraineté permanente. Sa gestion et sa protection sont d'intérêt général. Elles sont soumises au respect du principe de développement durable. L'État, la province et l'entité territoriale décentralisée, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, ont le devoir de les protéger et de participer à l'amélioration de la qualité de l'environnement. Et là, vous avez responsabilité plutôt le pouvoir public. C'est le pouvoir public qui doit donner la ligne directive sur la gestion, la protection de l'environnement, toutes ces questions. Et comme ça, la population pourra emboîter les pas dès qu'elle est encadrée. Merci beaucoup, Olivier. Sylvain, vous êtes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Bonjour, Sylvain, et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais d'abord dire ceci. Dans la matière de gestion des inondations, il est nécessaire de retenir que les rivières, les fleuves, la pluie, tout ça, constitue des personnages virulents et très dangereux. Très dangereux pourquoi? Puisque vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle des inondations, soit c'est la moitié du lieu, soit l'espace habité par la population. Si je dis population, ça peut être le marché, ça peut être le ménage, tout ça. Et donc, il faut la noter déjà, l'effet dangereux de la mauvaise gouvernance des rivières, des fleuves et des filles. Et comme vous pouvez le constater, puisque celui qui parlait devant moi a essayé de parler de la COP21 avant que je n'arrive de vous dire. Et là, je parle comme directeur général d'une ONG, basée à Bouna, qui travaille dans le cadre de la gestion rationnelle de l'environnement. Ça s'appelle l'ambassade de bonne volonté. Retenez d'abord que, par rapport à la thématique du jour, il y a deux grandes responsabilités. Au niveau de l'État, il y a un problème de la mise en place d'une politique urbanistique rationnelle. Ça, c'est un grand problème. Puisque lorsque vous êtes, par exemple, ici à Nifouri, et je prends les territoires du Oumou, dans la ville de Bounia, répartis en 12 quartiers, vous entrez dans des quartiers là où vous ne trouvez pas de riz. Il y a des quartiers dans lesquels la population a construit au bord des rivières. Alors, monsieur le journaliste, allez comprendre. Et s'il y a la pluie, c'est une inondation, quel peut être le danger? Deuxième chose, au niveau toujours de la responsabilité de l'État congolais, est-ce qu'on se rend compte de la politique environnementale rationnelle? Là encore, je dis non. Non, pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de l'effet des gaz à effet, de l'émission de carbone, tout ça. Lorsque vous regardez dans la politique du gouvernement, avec les différents contrats signés entre les multinationales différentes partenaires dans le monde et le gouvernement congolais, il y a déforestation et dégradation de la vie environnementale. Ce qui pose un problème du réchauffement qui fait surabonder l'eau, si je veux parler de l'eau des lacs, des rivières, tout en sort, et ça crée l'inondation. Voilà la responsabilité de l'État. Mais qu'est-ce que je dis du côté de la population? Les constructions anarchiques, et là je rentre dans ma ville de Bounia ici. Regardez par exemple au niveau du quartier ceux qui m'attendent ici dans la ville de Bounia, c'est petit fouet. Regardez les quartiers Lumumba. Il y a la rivière Nyamukau qui traverse. Mais regardez aux abords, la population a construit. Qu'est-ce que l'État peut penser par rapport à tout ce danger-là? Puisque si jamais il y a pluie abondante, attendez-vous à des dégâts importants. Nous l'avions connu ici l'année passée. Et comme l'ami l'a dit précédemment, il faut que le gouvernement ait des politiques en amont de gestion des catastrophes. Moi, je dis non, mes amis. Nous devons d'abord prévenir nous-mêmes à cette population. Ça, c'est bien. Et ici, je vais vous dire ce que nous, ambassadeurs de bonne volonté, nous faisons. Nous sensibilisons les ménages pour savoir construire. Et ici, quels sont les services, par exemple, des titres et des affaires frontières? Quels sont les services de l'État habilités à ériger des bâtiments dans des milieux autorisés par l'État? Donc, monsieur le journaliste, c'est pour vous dire, ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui est une leçon de l'absence cruyante d'une politique urbanistique responsable de notre gouvernement. Et moi, je pense. Si nous ne prenons pas garde, d'ici 2025-2050, nous risquons d'aller dans une ville ou dans un pays où pratiquement il y a quasi l'existence de la politique urbanistique et les choses sont faites mélu pêle-mêle, alors ça sera des catastrophes graves. Et j'ajoute à cette catastrophe de l'inondation. Par exemple, lorsqu'il est arrivé qu'une maison prenne du feu, ça peut créer des problèmes. Voilà un problème que moi je soutiens au niveau d'une politique adéquate de l'urbanisation de nos villes et de nos milieux. Voilà là où.
Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Vous estimez que la question doit être prise d'abord par les gouvernants qui doivent définir une politique adéquate. Vous avez aussi ajouté une politique rationnelle dans la gestion de l'environnement, que ce soit les questions de l'urbanisation. Mais d'un côté, vous, en tant qu'ambassadeur de bonne volonté, vous sensibilisez aussi la population par rapport à l'occupation, n'est-ce pas, du sol. Comme nous l'avons dit, je venais de lire l'article de la loi qui estime que cette question de l'environnement, c'est une question d'intérêt général. Ça touche les gouvernants, ça touche aussi la population, mais tout doit partir, comme le disait tout à l'heure Olivier, du gouvernement qui doit donner des orientations et c'est ce que la population doit suivre. Merci beaucoup, Sylvain. Michel, vous êtes à Matadi dans le Congo central. Bonjour, Michel, et bienvenue.
Oui, merci, monsieur le journaliste.
Et vous avez suivi tout à l'heure, quand, dans les reportages de Radio Capil, le Congo central est aussi touché par ces questions des abondantes pluies et toutes les conséquences. Et nous, nous dégageons les pistes des solutions par rapport à la responsabilité de l'État, mais de la population aussi, dans ces questions de protection de l'environnement, de notre milieu, de la gestion de toutes ces questions. Michel, quel est votre point de vue?
Oui, je commence d'abord à me plier devant toutes ces âmes qui ont péri lors de toutes ces catastrophes. Vous savez, mes journalistes, parfois j'ai la colère. La colère pourquoi? C'est parce que vous avez bien dit, il y a des cités qui ont annoncé avant que les pluies seront là. Et moi je pense, la raison d'être dans tous les gouvernements du monde, dans tous les gouvernements du monde là que vous voyez, les raisons d'être est bref, sécuriser l'homme. Sécuriser l'homme, c'est ça. Mais le problème chez nous, c'est qu'il y a un abandon total. Parce que normalement, pour un gouvernement responsable, lorsqu'ils ont appris l'information, le gouvernement a un porte-parole. Les porte-paroles devaient passer, il y a une chaîne nationale, parler que voilà ce qu'annonce les soupirs de tout ce qui veulent arriver à la République. Nous aurons des clouilles et pour y remédier, pour se prévenir, voilà ce que nous devons faire. C'est ça le rôle du gouvernement. Vous ne devez pas seulement venir lorsqu'il s'agit que quelqu'un a boycotté le dialogue, vous venez. Il y a des choses que vous devez parler. Parce que vous êtes là pour la population. C'est ça votre raison d'être. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la ville comme Tokyo. Tokyo, c'est une ville qui bouge parfois par des secousses. Mais vous allez voir, le gouvernement est adapté par rapport aux situations catastrophiques qui peuvent arriver. Ils ont pris des mesures préventives. C'est ça, mon frère. Vous savez, l'avant-hier, j'ai dit de l'harmonie. Lorsque vous voyez quelqu'un qui quitte son travail sous la pluie, il arrive quelque part, il piétine un fil électrique et l'électricité. Il meurt sur place. Mais le problème, c'est lequel? C'est que ces fils-là, électriques-là, datent depuis l'époque coloniale. Et pourtant, les pays, les citoyens payent leur facture chaque mois. Mais moi, je me pose la question. Pour les élections, il n'y a pas d'argent. Pour payer les fonctionnaires, il n'y a pas d'argent. Pour y remédier aux problèmes de la société, il n'y a pas d'argent. Est-ce que mon ou mon pays est en impunité? Dites-moi, payez ça. Parce que ça énerve parfois. Parce que, vous savez, nous sommes en train de mourir comme des animaux. J'ai vu comment les gens, les corps, laquelle la narotine a fait, et pas toujours comme des animaux.
En tout cas, c'est vous dites, oui, Michel, c'est la question, elle est vraiment. C'est ce qui montre même la. Oui, c'est ce qui montre la question.
Vous n'avez rien à faire.
Je
vais pas continuer là, mais comme tout soit l'effet sur le tout cas là.
Merci beaucoup, merci Michel, mais je crois que nous comprenons les degrés de la colère que vous avez, mais aussi. C'est ce qui montre l'intérêt de ces sujets sur le comment on doit considérer ces questions de l'environnement, parce que vous l'avez dit, il y a des familles qui ont perdu deux enfants, trois, on a vu des maisons s'écrouler, il y a des gens qui ont perdu des biens. Quand vous regardez les images aujourd'hui, la situation à Kinshasa, dans les communes qui sont touchées par ces inondations, ça fait très mal à Guémena, qui s'en gagne dans les Congo central, les routes qui sont coupées, il y a des quartiers qui sont menacés de disparaître. Alors vous considérez que le pouvoir public devait considérer cette question comme une urgence, d'abord en amont, dans la prévention. C'est pourquoi les autres compatriotes ont beaucoup insisté sur une politique bien définie de l'environnement, mais dans laquelle la population est impliquée. C'est un peu de cette façon-là qu'on peut arriver à résoudre cette question. Mais vous auriez souhaité même que le gouvernement pouvait passer, dire à la population, faites attention à cette période, la météo annonce qu'il y aura des abondantes pluies, voilà des mesures qui doivent être prises en amont. Merci beaucoup Michel. Nous avons écouté Dr Richard, on revient à notre invité qui est déjà dans ces studios pour placer un mot par rapport à ce qui a été évoqué par les compatriotes. Dr Richard, vous êtes ici à Kinshasa, merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Vous avez
bonjour
suivi
à l'invité, nos condoléances à toutes les familles mises à l'épreuve par cette catastrophe naturelle qui était d'ailleurs annoncée trois semaines avant que les pluies tombent.
Mmh. Alors,
la
comment
météo
on peut arriver
parlait, mais nous avons été sourds. Nous n'avons pas utilisé cet instrument qui se trouve chez nous, pour lequel on a dépensé beaucoup d'argent. C'est comme un monsieur qui a une paire de chaussures, quand il pleut, il enlève la paire de chaussures, on en a vu, il met dans un sachet plastique et il marche pieds nus sur 5 km pour se retrouver avec des plaies à la plante des pieds. Voilà. Donc, voilà notre comportement. Pour moi, il s'agit d'un problème de gestion de la cité par rapport à son environnement.
Mmh.
Quelle gestion? Gestion de catastrophes naturelles et autres et des urgences qui peuvent arriver. Pour moi, il faut que ça se fasse au niveau de la base d'abord. Qu'est-ce que le chef de quartier a comme document? A-t-il recensé à son niveau les murs en voie d'écroulement? Qu'est-ce qu'il a recensé? Les maisons qui sont au niveau des berges des rivières, etc. C'est ça le grand problème. Et puis, nous montons au niveau du chef de quartier, nous montons au niveau de, du bourgmestre. Où le bourgmestre, on fait de l'air. Environnement.
Oui. Docteur Charles, déplacez-vous, déplacez-vous, oui. Et parce qu'il y a un petit souci avec votre ligne, et continuez, oui, on vous écoute.
Oui, alors, maintenant, tu prends le centre de ce qui s'est passé derrière la station de régie des eaux. Moi, j'ai habité le quartier. Le père, j'avais loti jusqu'à l'avenue Liboké. Après Liboké, c'est notre anarchie. Pourquoi? Là, je vois le professeur Moussambo qui passe de temps en temps sur Radio Capi, dans l'émission au Capi Service, il a dit qu'on voit des zones humides, on ne construit. Ce sont des zones économiques qu'on a détruites. Voilà, ce sont des zones où on doit mettre les champs, mettre les stations de poissons, etc. Et nous, nous sommes construits pour dire que ça, là, c'est Dieu. Même dans la Bible, Dieu, la parole a parlé de la météo. La parole a parlé de la météo. C'est-à-dire, nous avons des instruments que nous n'utilisons pas. Peut-être nous devons remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est ce que moi j'appelle le glissement naturel ou traditionnel que nous aimons. Alors, il fallait que, 3 semaines avant, qu'on sache fermer les zones dangereuses. Là, ils pouvaient avoir des problèmes. Au cas où c'était la météo avait prévu, au cas où les pluies tombaient, c'est comme qu'on fasse des cliniques de récipients à l'unité là. On est en fait la destruction des cliniques de récipients.
Oui, l'occupation, oui. Nous avons, d'ailleurs, nous avons eu plusieurs émissions. Docteur Richard, oui. Il y a beaucoup de soucis avec votre ligne téléphonique. Nous avons eu d'ailleurs, il y a 2, 3, 4 ans, on a eu plusieurs émissions autour de l'occupation du terrain face des cliniques universitaires, à côté des l'ISTEM Kinshasa, avec tout ce qu'on voit comme difficulté aujourd'hui, la route à l'entrée de l'université qui est coupée avec un ravin, et ce qui menace non seulement l'université de Kinshasa, les cliniques universitaires, l'école de santé publique, ces questions qui étaient déjà évoquées dans cette émission. Mais vous estimez que tout est parti du fait qu'on n'a pas pris en considération les prévisions météorologiques pour savoir que voilà, il y aura des pluies, qu'est-ce que nous devons faire. Et cette question est revenue, d'ailleurs, beaucoup de compatriotes l'ont évoqué. Mais ici, vous ajoutez autre chose, docteur, c'est que ces questions doivent être traitées au niveau de la base, à partir des quartiers. On remonte vers le bourgmestre jusqu'au niveau du gouverneur. C'est pourquoi nous allons voir avec notre invité quelle peut être la part de la population dans ces questions de protection de l'environnement, mais la part aussi du pouvoir public. L'OCLOC, vous êtes à Calémie. Vous gardez la ligne 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Capi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Et nous recevons dans ces studios Madame Brigitte Kanika, experte en environnement. Madame Brigitte Kanika, bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci beaucoup.
Comment vous réagissez avant peut-être qu'on aborde ce que les auditeurs ont dit, ce qui touche à la politique de l'environnement, votre réaction en tant qu'experte en environnement devant la situation telle qu'elle est décrite aujourd'hui, que ce soit Kinshasa, au Congo central, en province orientale, à l'Équateur, par rapport à ces pluies, ces maisons qui s'écroulent, ces inondations, une réaction en tant qu'experte en environnement?
En tout cas, on est tous concernés. On est vraiment concernés par ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer les morts et je m'incline devant la douleur de toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Mais le gros du problème, c'est nous-mêmes, en tant que Congolais. D'abord, la première question, c'est que nous, on arrive toujours en retard. Quand il y a des conséquences qui sont là, c'est alors qu'on commence à réfléchir. On ne réfléchit jamais en amont. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'était des problèmes prévisibles. On devait prévoir ça depuis plusieurs années. Il y a un problème sérieux dans le pays, c'est le problème de manque de politique urbanistique. Et c'est là, ce n'est pas tellement en Kinshasa, c'est à travers le pays. Et c'est aujourd'hui les conséquences que nous commençons à déplorer. C'est vrai qu'il y a un problème sérieux, c'est par rapport au changement climatique. C'est un problème qui est reconnu dans le monde entier. Mais le gros du problème, c'est que nous, nous allons le vivre autrement par rapport à d'autres pays qui ont eu à prendre des mesures en amont. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est en train de s'étendre. Mais ça s'étend comment ? C'est par des bidonvilles où il n'y a aucune politique urbanistique qui a été mise en place. Chacun construit comme il veut et comme il peut. On donne des terres, que ce soit au niveau des affaires foncières, que ce soit au niveau des autorités coutumières. On commence par distribuer des terres. Il n'y a aucune politique d'urbanisation qui a été mise en place. Parce que nous voyons dans d'autres pays, avant d'octroyer des terres, on commence d'abord par urbaniser. C'est-à-dire quoi ? On crée des routes, on fait des caniveaux pour la collecte des eaux de pluie, on met l'électricité et l'eau, c'est après qu'on distribue les terres. Mais ici, en RDC, ce n'est pas ça. On donne les terres et chacun se débrouille comme il peut. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on déplore ce qu'on est en train de déplorer. Et je suis désolée, je suis vraiment désolée de le dire à travers des saisons, de ce n'est que le commencement du début. Parce que dans les jours à venir, dans le mois à venir, ça sera pire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et pourtant, ce sont des choses qu'on devait déjà prévoir en amont. Et tout ça, c'est pourquoi il manque la politique urbanistique, c'est ce que je venais de dire. Et le deuxième élément, c'est que la population a sa part des responsabilités. Mais la population, moi, je l'ai toujours comparée à un enfant. N'attends pas à ce que l'enfant en naissant, ou quand il est encore enfant, quand il est appelé enfant, ne t'attends pas à ce qu'il fasse du bien. Tu dois lui apprendre à les faire. Et le gouvernement a leur part des responsabilités, c'est-à-dire qu'ils devaient mettre des mesures contraignantes pour que la population puisse se plier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Tous les caniveaux sont devenus des poubelles, des décharges publiques. Dans toutes les communes, il n'y a aucune commune qui est épargnée, que ce soit à la Gombe, que ce soit n'importe où. Prenons l'exemple du boulevard du 30 juin. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'assister, on est en train de déblayer le caniveau, de désensabler. Mais qu'est-ce qu'on fait les gens qui balayent le boulevard ? Qu'est-ce qu'ils font ? Leur décharge, c'est où ? Où est-ce qu'ils déversent les sables ? C'est dans les caniveaux. Et seulement une année après, les caniveaux sont bouchés. Il faut passer sur le boulevard quand il pleut. C'est impossible. Ce sont des liens qui se forment. Et tout ça, c'est le problème. C'est un problème politique.
Voilà. Vous avez dit que c'est un problème politique.
C'est un problème de gouvernance, c'est ce que je voulais dire. La politique, plutôt de gouvernance.
Voilà, des questions de l'environnement. Mais quand je regarde les différents articles de la loi portant principe généraux sur la protection de l'environnement, il y a le gouvernement qui doit élaborer un plan.
Il y a aussi des plans en
impliquant la population. Et vous avez travaillé dans la gestion de ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, et en dehors de ces débats que nous faisons parce qu'il y a des catastrophes, mais est-ce que la question de toutes ces questions sont évoquées au niveau du pouvoir public comme une préoccupation majeure, ou bien ce sont des questions qui sont évoquées d'une manière conjoncturelle quand il y a des problèmes? Mais est-ce que dans la conception, c'est une question majeure aujourd'hui?
Je ne suis même pas sûre que c'est évoqué de façon conjoncturelle, pas du tout. Parce que, je suis désolée de le dire, mais ce qu'on constate, c'est que c'est quand il y a des catastrophes, les autorités se déplacent juste pour aller compatir avec les familles, voir là où il y a de l'eau, voir là où il y a eu des catastrophes, et le lendemain, personne n'en parle. C'est terminé. Donc, pour moi, je me dis que ce n'est pas une question majeure. C'est un problème vraiment d'arrière-plan, et personne n'en parle. C'est quand ça arrive, ben, on en parle, et puis le lendemain, tout le monde oublie.
Mais alors, quelle est la part de responsabilité des experts en, en environnement? Est-ce qu'il y a-t-il des structures, des discussions, de réflexion entre le pouvoir public et les experts en environnement pour dégager? Parce que là, Olivier, qui a dit en début d'émission, les politiques devaient se référer à la science qui est vous détenez dans ces questions pour pouvoir dégager des mesures, des pistes, des solutions, et la population pourra alors suivre cela.
Oui, les experts, ils sont là, mais les experts, ils n'ont pas des décisions à prendre. Eux, ils donnent tout simplement ce que la science donne. Ils donnent des théories. Mais ce qu'ils devaient mettre, peut-être qu'ils donnent aussi des pistes et des solutions. Ce qui est vrai, que les experts donnent des pistes et des solutions. Mais ce qu'ils doivent mettre en pratique toutes ces pistes et solutions, ce sont les gouvernants. Mais malheureusement, les gouvernants, ils sont absents. Or, ce que nous savons par rapport à la gestion de la cité, c'est-à-dire prendre soin ou garantir la sécurité des populations et de leurs biens. C'est ça, en fait, la gestion de la cité. Et donc, le gouvernement devait prendre cette situation comme une priorité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Si nous allons, aujourd'hui, on est en train de parler de problème des COP21. Mm-hmm. C'est le gouvernement du monde entier qui se retrouve là-bas pour discuter sur le problème de l'environnement. Il ne suffit pas seulement de voir les problèmes des forêts, mais tout doit être pris en compte. Tout le problème des citoyens, ça doit être pris en compte. S'il y a des réchauffements climatiques aujourd'hui, si nous prenons la façon dont nous traitons seulement nos villes à nous, nos villes africaines, regardons un peu les déchets plastiques, c'est un problème sérieux. Il n'y a pas que la coupe de bois ou la coupe d'arbre qui pose problème, mais tous les déchets plastiques qui s'incrustent dans le sable, et ils ne sont pas biodégradables, cela veut dire qu'il faut 100 ans pour que le plastique puisse se décomposer. Donc pendant tout ce temps, les eaux n'ont plus de place pour s'infiltrer, et donc ça reste sur la surface, et en ce moment-là, quand il y a moindre pluie, ce sont des plaques d'eau qui se retrouvent partout. Les environnementalistes, ils peuvent donner leur voix, ils peuvent parler, ils peuvent donner des pistes et des solutions, mais à partir du moment où il n'y a pas de mesures qui accompagnent, à partir du moment où il n'y a pas, même si il y a des lois, parce que les lois, il y en a, et il y en a beaucoup, mais le problème, c'est par rapport à l'application, l'applicabilité de ces lois. Est-ce qu'on le met en pratique? Non. C'est là où le bas blesse. Donc aujourd'hui, on a vu dans les temps, on a pris des mesures, on ne veut plus voir les sachets d'eau. On arrête les petits revendeurs, mais on oublie qu'il y a
les usines qui fabriquent
les sachets plastiques.
Et aujourd'hui, ils sont revenus comme à la belle époque.
Parce que tout simplement, les mesures qu'on prend, c'est juste, comme vous l'avez dit, conjoncturel. C'est juste pour un temps. Le temps d'une semaine de rançonner les gens, et puis on oublie.
Et quand on regarde aujourd'hui la pression, on peut dire, démographique dans la ville de Kinshasa, c'est un problème sérieux, vous l'avez dit, dans l'avenir, ça risque encore d'être
absolument très compliqué. Absolument, c'est terrible. Aujourd'hui, ce n'est que le commencement. On vient juste de commencer avec tout ce qu'il y a comme la montée démographique à Kinshasa et dans les grandes villes du pays. Demain, ça sera ingérable.
Et ça va être difficile. C'est pourquoi tout l'intérêt, vraiment, que cette question soit considérée comme une priorité aujourd'hui.
Ça doit être une priorité, le problème de l'environnement. Le problème de l'environnement, c'est une priorité. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de connaître des guerres et des guerres par rapport aux matières premières, mais demain, ça sera des guerres et des guerres par rapport à l'environnement. Et ça, c'est une évidence. Et aujourd'hui, nous devons déjà en prendre conscience. Et les dirigeants doivent commencer déjà à prendre des mesures adéquates.
Nous allons écouter l'OCLOCE qui est à Calémi, Arcelé Takikuit, ingénieur Mangoya Kinshasa. L'OCLOCE, bonjour et bienvenue dans cet échange. L'OCLOCE, bonjour.
Oui.
Vous êtes à Calémi.
Je suis l'OCLOCE, je suis expert en développement et action humanitaire développé des quartiers.
Oui, on vous écoute.
Dans la nouvelle Calémi, la nouvelle province du Tanganyika, au bord du lac Tanganyika, bien sûr.
On vous écoute, l'OCLOCE.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que nous déplorons aujourd'hui, comme nous présentons nos condoléances à toutes ces victimes, parce qu'il y en a plein, ce n'est pas seulement à Kinshasa, je vous assure, monsieur le journaliste, c'est dans tous les pays. Donc, sur l'étendue de l'RDC, il y a des décès, il y a des morts à cause de ce bruit, et comme madame venait de le souligner tout de suite, c'est encore le début. Nous sommes au début de cette saison et il y aura encore beaucoup d'inondations. Moi, c'est juste une interpellation, parce que nous devons toujours planifier, nous devons prendre justement des mécanismes pour faire face à cela. Des mécanismes de résilience, comment faire face à des telles situations pour que ça ne puisse pas dissimuler tous les Congolais, parce que ça guette tout le monde. Nous ne sommes pas épargnés, aussi en fait qu'il n'y a pas de mesures nécessaires prises et suivies, bien coordonnées par les services vraiment des tutelles. La population, oui, mais la population, elle doit être guidée, elle doit être canalisée, elle doit être, mais le fond de la population doit être canalisée. Moi, je m'intéresse à pouvoir vraiment interpeller. Moi, c'est au niveau de la population seulement, de notre nouvelle équipe provinciale de donc du Tanganyika, parce que c'est une nouvelle équipe, qu'elle doit prendre des mesures nécessaires. Parce que pour le moment, avec ces inondations, il y a le port qui doit être finalement mis à l'écart. Le port, l'économie ne pourra plus fonctionner parce qu'il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de choses, parce que les érosions, les sables qui descendent des collines, parce qu'il n'y a pas d'urbanisation, il y a des maisons en pagaille, il y a pêle-mêle, donc construction anarchique. Donc, il y a beaucoup de dégâts, et il y a beaucoup de maisons qui sont tombées ici, on ne dit pas seulement, il y a des morts autour de l'ampleur de morts, mais il y a des autres territoires et de la province. Donc, aux nouvelles autorités, seulement de mettre en place une politique qui pourra vraiment gérer très bien, et surtout gérer avec la population, c'est-à-dire une certaine mesure, il faut vulgariser. Les mesures de vulgarisation ne sont pas mises en place. La mise en œuvre des mesures, on peut prendre des lois, on peut prendre beaucoup de choses dans des bureaux là-bas, il y a beaucoup de décrets, mais la population ne connaît rien de tout ça. Elle est ignorante. Il faut l'éduquer, c'est pas pour elle qu'il y a des services. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Les services de vulgarisation, c'est tout ce qu'il y a comme mesure. Mais sur les journalistes aussi, en fait, il n'y a pas ça. Demain, on passera toujours au café, et au café en parallèle, et on va toujours à Télé.
Merci beaucoup, l'OCE. Merci beaucoup, mais vous avez insisté sur... Vous avez insisté sur vous interpeller les pouvoirs publics. D'ailleurs, vous vous êtes adressé à l'équipe qui dirige la province, la nouvelle province de Tanganyika. Il y a le commissaire spécial et ses deux agents. Au niveau même de la loi, on prévoit le plan provincial. C'est-à-dire qu'au niveau de la province, il y a moyen de pouvoir prendre des mesures. Hein. Mais vous insistez beaucoup sur l'éducation de la population, l'implication de la population dans ces mesures qui sont prises, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se retrouvent étrangers à ce qui est pris comme mesure dans la gestion de ces questions qui touchent à l'environnement. Sinon, vous l'avez dit, il y aura encore beaucoup de pluie et les services des Métélsat l'a annoncé ici à Kinshasa. Mais là, il faudrait qu'on voie. Mais si vous voyez bien l'introduction de l'émission, nous avons évoqué ce que le gouvernement a demandé à ceux qui, les gens qui occupent ces quartiers dangereux de pouvoir les quitter plus rapidement. Et la question, c'est de savoir les gens vont quitter pour aller où et de quelle manière ces questions vont être gérées. Merci beaucoup, le CERCEN. Vous êtes à Kikuit, c'est dans la province du Kulu. Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup pour la parole, merci beaucoup et bonjour à tout le monde.
Vous avez suivi les constats que notre invité aussi l'a dit. Ces questions ne sont pas considérées aujourd'hui comme une urgence et pourtant c'est une question vitale. Il y a même un internaute qui nous a écrit pour dire « Je m'étonne que pendant qu'il y a ces questions de l'environnement qui touchent, il y a plus les gens qui sont, leur esprit est tourné plus vers les dialogues. » Voilà, c'est Tony Gandhi de Kinshasa qui dit « Pendant que les gens crient sur la protection de l'environnement et la mort, plus qu'ils passent dans le média et ils évoquent tout simplement la question des dialogues, c'est que leur préoccupation s'est tournée ailleurs. Ça, c'est le point de vue de Tony Gand qui nous a écrit de Kinshasa. Quel est votre point de vue, Arsène?
Merci beaucoup pour l'interpellation. Vous savez, M. Pierrot, quand sur les ondes de la radio Capi nous parlons, nous essayons d'intervenir pour donner notre expertise dans tout ce qui se passe dans notre nation, mais il y a des gens qui nous déconsidèrent. Tenez, la semaine passée, je suis sur les ondes de la radio Capi. Un des conseillers d'un ministre trouvait que ce que nous disons ici sur les ondes de la radio Capi, ce ne sont que des histoires que vous ramassez par-ci par-là. C'est ridicule. Ridicule, puis l'autorité de la nation pouvait faire cette considération. Je tiens à expliquer et à interpeller nos dirigeants. Ce que nous faisons sur la radio Capi, c'est objectif. Pourquoi objectif? Parce que nous apportons nos expertises dans toutes les matières. Mais alors, quelle est la considération de nos autorités sur ce que nous apportons comme mesure ici? Ils nous déconsidèrent. Ils sont habitués à entendre des spécialistes du dialogue. Là, ils sont contents. Mais aujourd'hui, je ne peux que marcher sur l'état de notre invité, de tout ce qu'elle a raconté, de tout ce qu'elle a dit. Vraiment, il a de l'expertise. Moi, je prendrai la ville de Kikuit, puis je parlerai de Kinshasa. La ville de Kikuit, c'est une ville située dans une situation géographique un peu accidentée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lotissement, le drainage, tout ce qui peut se passer dans ce qu'on appelle l'urbanisation. Personne ne s'occupe de ça. On tout fait en désordre. Voire même des caniveaux où il faut construire un caniveau, le gouvernement n'a pas été capable de construire. Nous avons des caniveaux qui ont été construits vers la fin des années 60 et depuis les années 70. Aujourd'hui, la démographie a changé, on doit changer et il faut des millions pour ça. Parce qu'un caniveau d'un kilomètre coûte combien? Bon, les techniciens vont apparaître, ça dépend de quel type de caniveau que nous allons construire. Mais s'il faut voir les moyens qu'on dote dans nos institutions, les moyens qu'on est en train de doter. Donc c'est impossible, on ne peut rien faire. Et si on ne peut rien faire, qu'est-ce qui va se passer d'ici les 5 ans? La pluie, aujourd'hui nous sommes en train de déplorer toutes les pluies qui sont en train de venir chaque jour. Mais après une année, après 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre dans les trous. Donc, ce que je voulais dire, c'est ceci. Prenons les choses au sérieux. Que le gouvernement puisse prendre tout ce que nous disons, tout ce que nous donnons comme expertise ici, au sérieux. Nous, dans la ville de Kibwezi, nous avons un problème sérieux, très sérieux, parce que nous allons être engloutis par des ravins, parce que nous avons plus de 300 têtes d'érosion à Kibwezi. Bon, prenons Kinshasa. Moi, je suis content qu'il y ait une pluie comme ça. Content pas dans les mauvais sens. Content parce que cette pluie nous a donné une certaine dimension. Ça nous a donné une mesure. Tenez, vous avez la station de la régie des eaux qui se trouve sur la rivière Ngili. Si cette station a été engloutie par les eaux, prenez seulement le niveau de l'eau là, qui a englouti la régie des eaux, vous aurez le niveau minimum de l'embrayage qu'on doit faire. Et s'il faut situer ce remblayage-là sur tout le quartier Tchalongo et le quartier de Bonhomme, vous verrez quel est le travail que nous avons à faire et il y a combien de maisons qui vont être détruites. Et vous allez dire, ben, sortez un peu, allez vous mettre à côté, puis après vous allez rentrer. Quand ils vont rentrer, il y aura une autre grosse pluie qui va venir et on va déplorer les morts. Donc, il faut directement imaginer le remblayage qu'il faut faire à partir de la rivière Ngili jusqu'à l'arrêt des bonhommes. Vous prenez dans les deux côtés, il faut tout remplir et monter le niveau de ces quartiers-là pour construire un quartier. On va le faire exactement comme on fait avec la cité du fleuve. Mais prenons les choses au sérieux. Voyons les techniciens à la matière de l'urbanisme, de l'habitat et le ministère des Affaires foncières. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Bon, comment on peut le considérer? Comment moi je peux pas? Si j'utilise un mot ici, on dira que Arsène est un peu brut dans ses mots. Mais je vais dire que.
Voilà, merci beaucoup, Arsène. Mais j'aurais connu quelque chose d'important de ce que vous avez dit dans votre intervention, Arsène. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que les autorités devraient en principe considérer tous les points de vue des auditeurs, la population qui s'exprime à travers cette émission, un débat, un échange citoyen pour partir de ça. Parce que le vrai problème qui se pose à Kalemi, à Bounia, à Kinshasa, partout ailleurs, à Matadi, pour pouvoir le présenter ainsi. Mais il y a Vini Kapambou qui nous a écrit, qui dit ceci, mais je me demande dans ces conditions comment nous allons atteindre l'émergence en 2030, comme le prône le chef de l'État, avec quel pays, avec quel environnement, avec quelle population on pourra atteindre l'émergence en 2030 si on ne peut pas considérer les questions de l'environnement comme une urgence. Siméon Mundala Dembujima, il dit ceci, le gouvernement congolais n'est-il pas capable de prendre en charge que ce soit les sinistrés, que ce soit aussi la prévention, mais sinon ça sera une honte pour un grand pays comme le nôtre. Georges Ilunga dit ceci, je crois la plus grosse faute incombe à celui qui aurait autorisé à toutes les familles de s'installer et de construire, et tout ça, ça revient sur l'État et sa politique d'urbanisation. Laetitia Kendeminga de Kinshasa dit ceci, est-ce qu'on n'a pas le moyen et les capacités pour pouvoir s'occuper de sinistrer et puis après prendre des mesures en amont pour éviter que les gens ne tombent encore dans cette situation? Et je déplore le fait que les autorités demandent à la population de quitter ces quartiers sans pour autant leur dire des mesures qui sont prises pour leur pour les reloger. Voilà. Et ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Ingénieur Mangoyo, bonjour. Dommage, on a perdu l'ingénieur Mangoyo qu'on va récupérer. En attendant, Joseph, vous êtes avec nous dans la capitale. Bonjour, Joseph. Joseph, bonjour. Voilà, nous revenons directement à vous, Madame Brigitte Kanika. Vous avez suivi les uns et les autres aujourd'hui. Est-ce que, et dans le minimum qui peut être fait par l'État dans ces questions que nous avons évoquées, est-ce qu'il arrive des fois que la population soit impliquée pour qu'elle sache quelle est sa part de responsabilité dans toutes ces questions?
Je ne suis pas très sûre que la population est impliquée. C'est vrai qu'elle peut l'être, mais c'est à travers plutôt des ONG. les organisations non gouvernementales. Et comme vous le savez, les ONG ont leurs objectifs, mm-hmm. ils ont leurs cibles. Et puis, ils ont peu de moyens qui ne peuvent pas faire assez que, assez qu'ils puissent toucher beaucoup de gens. C'est plutôt le gouvernement qui devait être sensibiliser les populations et surtout éveiller la conscience de la population parce que le gouvernement en a le moyen. Je prends un exemple banal. Je prends l'exemple de la RTNC. Je crois que ça devait être sa mission primordiale. Le travail que la radio Okapi fait aujourd'hui, c'est un travail qui devait être fait par la RTNC, qui est une radio-télévision nationale et qui devait prendre en priorité tous ces problèmes-là qui touchent les communautés, qui touchent directement la population. Pour que la population prenne conscience, on devait d'abord mettre de côté tout ce qu'il y a comme politique, parce que apparemment, la priorité du pays, c'est la politique. Mais la politique, pourquoi ? La politique y est définie comme l'art de gérer la cité. Et la gestion de la cité a pour objectif, comme je le disais tout à l'heure, de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et aujourd'hui, les catastrophes naturelles qui arrivent aujourd'hui sont des choses qui devaient interpeller d'abord le gouvernement. C'est vrai, la population a sa part de responsabilité. Mais le gouvernement, dans un pays, joue le rôle de parent, du père dans un foyer. Le père a la responsabilité de sécuriser les enfants, de sécuriser toute la famille. Et c'est ça le rôle du gouvernement. Et donc, pour ma part, en ce qui me concerne, moi je pointerai plutôt du doigt le gouvernement parce que si le gouvernement avait pris les mesures en amont, aujourd'hui nous sommes en train de parler de construction anarchique. Qui donne les titres à tous ces gens-là? Je crois qu'ils ont des titres de propriété. Oui. Mais qui leur donne les titres? C'est toujours les gouvernants. Qui autorise qu'on puisse construire, même si on peut appeler ça construction anarchique, ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que si vous regardez, si vous interrogez ces gens-là, vous allez voir qu'ils sont, qu'ils ont des documents,
un papier qui vient,
ils ont des documents
d'un ministère quelconque,
délivrés en bonne et due forme. Donc, il y a une part encore de responsabilité. Si on dit aujourd'hui que le gouvernement pourra prendre en charge les sinistrés, je veux bien, mais pour combien de temps? Il va les prendre en charge pour combien de temps?
Et c'est ce que Benoît Tchamba de Kinshasa nous écrit. Il dit, mais je vois là le gouverneur de la province qui annonce donner l'argent, les riz, farine aux victimes. Mais si on sait qu'on a l'argent pour donner du fil à la nourriture, pourquoi n'avoir pas utilisé cet argent en amont pour construire des caniveaux
et évacuer les conditions, pour mettre les conditions adéquates pour un environnement décent?
Mais je comprends que c'est une question transversale. Aujourd'hui, on a le ministère qui s'occupe de l'environnement. Des fois, quand on fait les débats, les gens chargent le ministère de l'environnement. Mais quand on évoque cette question, je vois l'urbanisme, je vois toutes ces autres services.
Non, pour ce qui se passe aujourd'hui, pour ce qui se passe aujourd'hui, en rapport avec la situation qu'on est en train de déplorer, le ministère de l'environnement n'a pas un grand rôle à jouer. C'est plutôt le ministère de l'urbanisme et habitat, premièrement. Et puis, il y a le gouvernement provincial. C'est un travail de gouvernement provincial dans pratiquement toutes les provinces du pays. Ce n'est pas le travail du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a un travail bien défini. C'est plutôt tout ce qui concerne la biodiversité, c'est ce qui concerne les forêts, c'est ce qui concerne les eaux. Ça n'a rien à voir avec l'urbanisation.
Mais la question, dans sa gestion d'une manière globale, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question transversale, parce que quand le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat faille à sa mission, tout de suite,
le ministère
de la Santé avec de maladies, la sécurité qui va se créer parce qu'il y a des gens qui tout de suite se retrouvent, comme on vient de dire à Calémie, le port, on ne peut plus aujourd'hui travailler, c'est la question économique, la régie de l'eau ici à Kinshasa, on voit qu'il n'y a pas d'eau dans beaucoup de quartiers, voilà autant de
questions. Si je pourrais parler par exemple du ministère de la Santé, il y a un problème d'hygiène qui se pose. Il y a un problème d'hygiène. D'ici là, vous allez voir qu'il y aura des maladies qui vont ressurgir. Non seulement des maladies, mais des épidémies. Il y aura des épidémies qui vont surgir. Et de deux, tous les problèmes d'hygiène. Il y avait je crois qu'il y avait des services d'hygiène, et il y en a jusqu'à aujourd'hui, mais on ne les retrouve que dans les aéroports pour contrôler la nourriture qui va en Europe. Mais est-ce qu'on les retrouve dans les quartiers?
Et au grand marché.
Est-ce qu'on les retrouve dans les quartiers?
Il y a aussi ce message de notre ami Sampitene qui nous a écrit d'investir de Kinshasa. Prenons le cas de l'unitine qui est menacée des érosions un peu partout. Au trafic roulant principal, le Home 10, 20, 30, le rond-point Vatican, pour ne citer qui est là, l'université de Kinshasa. est en alerte maximum depuis alors que la plupart des tronçons se sont coupés. Tout a été visité par les autorités, mais pas d'ici jusqu'à alors. Patrick Kaninda, qui nous écrit de l'Université Notre-Dame du Kasaï à Kananga, il dit ceci, diriger c'est prévoir, mais comment nos autorités attendent toujours les conséquences pour chercher une solution parfois éphémère à des circonstances telles que nous examinons aujourd'hui. Timothée Moukini, qui nous écrit des Kananga, la foi très bien au service des cadastres, des urbanismes qui ont loti ces endroits, sachant qu'ils sont dangereux pour des éventuelles catastrophes. Pour résoudre cette question, le gouvernement doit d'abord définir la cartographie des villes et leur occupation. Ça revient plusieurs fois dans nos débats. Conscience Kabongo, vous êtes avec nous à Kinshasa. Merci de nous avoir appelés. Bonjour et bienvenue à cet échange.
Bonjour, Mbote Thiambo, à tous les occupistes de la paix.
On vous écoute.
Aussi, mes condoléances à toutes les familles attristées et à tous ceux qui sont dans le malheur.
On vous écoute, merci.
D'une manière active ou encore carrément pour conclure, moi j'aurais dit que l'État est irresponsable. Mais en soi, ce sont les autorités que nous avons qui sont irresponsables. Parce qu'il est vrai que nous ne pouvons pas lutter contre la nature, mais nous pouvons lutter contre les dégâts que la nature peut causer. Ou encore atténuer leur effet. Nous avons la science pour ça. Même sans chercher à parler des récentes pluies qui avaient une forte intensité, certes, nous sommes toujours inondés, même par une très petite pluie, à cause juste du manque de curage régulier des canaux à Kinshasa. Il n'y a pas une politique d'urbanisation, ou d'entretien, ou de protection de l'environnement. Bref, science sans conscience,
c'est
que ruine l'âme. Tous ces gens qui manque justement la conscience, la plus simple, qui devait naturellement leur donner un instinct, un réflexe de conduite pour valoriser l'être humain ou le moyen qu'ils ont mis à leur disponibilité. Il y a une bombe à retardement qui est en train de se préparer à quelques mètres de la maison communale de Kinshasa. Ça, on n'a pas encore vu. On est incapable de prendre en charge 1000 personnes. Comment voulez-vous qu'on prenne en charge 30 000 personnes
Alors, la conscience, vous avez évoqué la situation des expulsés du Congo-Brazzaville depuis plus d'une année qui dorment à laver les toiles long du mur, là, de clôture du stade, là où l'équipe des Renaissance effectue ses entraînements. Il y a des gens qui dorment sous des tentes et des pagnes, là, depuis plus d'une année maintenant. Merci beaucoup, conscience. Et je m'envoie, on va vous accorder la parole. Mais il y a ce message de Maître Bic qui rappelle de Kinshasa qui dit ceci. Je pense qu'au lieu de disposer de l'argent pour organiser un dialogue autour du mode des scrutins. En 2016, le gouvernement devait prendre cet argent pour avoir finalisé le programme de la révolution de la modernité, envie de sauver la ville de Kinshasa, Kisangani, Dungu, partout où il y a des problèmes des inondations. Monsieur Mangoyo, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes les derniers auditeurs de cette émission. On vous écoute votre point de vue.
Merci Piro. Je crois qu'après l'intervention de votre invité, J'allais dire, parce que qu'est-ce que je vais encore dire? Parce qu'elle est tellement claire, et avec des arguments qui interpellent comment le gouvernement. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose, Piro. Vous savez, Piro, comme madame l'avait dit, si vous passez sur le mouvement 30 juin, si vous continuez le gouvernement, vous voyez, on est en train de désensabler, à niveau tout ça. Et vous verrez que ces sables-là qu'on met sur le boulevard, immédiatement, en tout cas dans les 24 heures, on évacue ça, tout ça. Il y a les moyens pour évacuer. C'est pas que le boulevard du 30 juin, nous sommes à Gombe. Mais venez à la cité. Pour ceux qui connaissent un peu le zone, l'avenue Mamayemo, qui arrive jusqu'au pompage là-bas. Mais ça fait plus de 3 mois qu'on a dégagé le sable des criveaux. Mais ça se trouve là-bas. On ne dégage pas et ce sable revient dans les retombes, dans les caniveaux. Donc, à mon sens, je crois que nous avons l'impression que le gouvernement, pour eux, la gestion de la ville de Kinshasa ou que c'est du pays, s'est réduit à la seule commune de la bombe. Donc, c'est pas comme ça.
Et faudrait-il ajouter, ingénieur Mangoyo, que quand les dernières pluies, on a vu aussi des grandes difficultés pour circuler dans la commune de la bombe. On a vu les collèges Bobotes qui étaient presque dans l'eau. L'hôtel de ville de Kinshasa était vraiment submergé dans l'eau.
C'est vrai, Pierre.
Voilà, merci. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. On va revenir à notre invité, madame Brigitte Kanika, pour conclure cet échange. On a écouté les uns et les autres. La question doit être considérée comme une priorité aujourd'hui, madame. Votre mot de conclusion.
En tout cas, je crois que le gouvernement a du pain sur la planche.
le gouvernement a du pain sur la planche, il faut qu'on commence à réfléchir sur les actions à prendre en amont. C'est un élément très important. Mmh. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des situations pour commencer à chercher des solutions. C'est comme si c'est un arbre. Hein, quand on cherche à couper l'arbre, on cherche à couper le fruit tout en laissant l'arbre. Donc, on n'a rien résolu. On n'a rien résolu. Et c'est le problème que nous constatons. Deuxième élément, il faut mettre en place un système de collecte de déchets ménagers. Mm-hmm. Ça aussi, c'est un problème. Nous avons vu l'Union européenne. Nous avons vu l'Union européenne
qui a dit ça. Mais malheureusement, ce qui est venu après,
c'est le gouverneur qui demande au Premier ministre d'aller collecter les immondices.
Et c'est la problématique autour de ça.
Et un autre problème, c'est par rapport à l'interdiction de l'utilisation des sachets.
Merci.
Ça, c'est un fléau pour la République démocratique.
Dommage que toutes les rivières et tous les ponts construits dernièrement par les Chinois ont été encore envahis
malheureusement,
par les bouteilles en plastique. Merci beaucoup, Madame Brigitte Kanika, experte en environnement. Merci à Rété Kidakala qui a mis en nom de cette émission, coordonnée par Jérôme Guémo, qui était aussi à la réalisation. Julie Fézaté s'occupait du standard. Piro et la Méhi, je vous la présentais sous la supervision de Martin Sebujango. On se retrouve le lundi prochain. En attendant, on vous souhaite un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir. Thank you.